La France a un nouveau gouvernement, ça fait réagir aux Fénois. On va aussi au CESEC avec un débat sur le plan jeunesse et un jour férié. Et on termine par du sport et de l'humour marseillais. Le journal de la rédaction de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
La France a un nouveau gouvernement.
Et la Polynésie et les Outre-mer ont un nouveau ministre. Il s'agit de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre de François Hollande a été nommé ministre d'État dans le gouvernement de François Bayrou. Il s'agit d'un ministère de plein exercice, une première depuis 2022 pour le portefeuille des Outre-mer, qui a vu se succéder plusieurs ministres délégués. Après plusieurs échecs politiques qui ont suivi son départ du gouvernement il y a 8 ans, Manuel Valls se retrouve donc avec plusieurs dossiers importants à gérer, à commencer par la reconstruction de Mayotte, la crise politique, économique et sociale en Nouvelle-Calédonie ou la mobilisation contre la vie chère aux Antilles. Trois autres ministres d'État ont été nommés dans ce gouvernement, Bruno Le Retailleau à l'intérieur, Elisabeth Borne à l'éducation nationale et Gérald Darmanin à la justice. Comme le gouvernement Barnier nommé à l'issue des législatives de juin dernier, aucune des deux forces principales de l'Assemblée nationale, le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, n'est sans surprise représentée dans ce gouvernement.
Et Moïté Brotherson a fait part de sa réaction mitigée.
Oui, le président évoque notamment un gouvernement très à droite.
Une réaction mitigée, bon déjà c'est un gouvernement très à droite, mais ça c'était déjà le cas auparavant. Une bonne nouvelle en tout cas, c'est la reconduction de Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères et de l'Europe, puisque j'avais déjà entamé des discussions avec lui sur tout ce qui est processus de décolonisation, donc ça va me permettre de ne pas perdre du temps à réexpliquer à un nouveau ministre, surtout que sa position était plutôt favorable à la tenue de discussions multilatérales en juin lors du comité des 24.
Voilà, le président qui sera à Paris le 11 janvier. Alors il note que l'arrivée au ministère des Finances d'Éric Lombard, l'ancien directeur de la Caisse des dépôts et consignations, est un motif d'espérer. Moïtei Brotherson dit qu'il s'agit probablement de celui qui est le moins à droite dans ce gouvernement. On verra si Bercy est toujours intraitable ou s'il y a moyen de discuter. Fin de citation. Moïtei Brotherson doit notamment parler de la revalorisation du troisième instrument financier, au moins à hauteur de l'inflation par lequel l'État finance les investissements structurants avec le pays. Quant à Manuel Valls, c'est lui que Moïtei Brotherson dit vouloir rencontrer en priorité. Il n'est jamais encore venu en Polynésie. Le président dit donc vouloir l'inviter. Il a au moins une chose pour lui, dit Moïtei Brotherson, sa connaissance du dossier calédonien dans lequel Manuel Valls avait été très impliqué lorsqu'il était Premier ministre, puis lorsqu'il avait présidé la commission de suivi de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Moïtei Brotherson veut aussi s'assurer que le comité ministériel des Outre-mer prévu en mars et pour lequel il a des dossiers d'ordre financier mais aussi institutionnel sera maintenu. Mais la question maintenant c'est, est-ce que le gouvernement va-t-il survivre au mois de janvier ? Le Premier ministre devrait faire son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale le 14 et dans le premier grand entretien qu'il a accordé à BFM TV lundi soir, François Bayrou a promis de n'utiliser le 49-3 qu'en dernière extrémité. Il s'est dit persuadé qu'il ne sera pas censuré alors que la France insoumise a promis de déposer une motion. Pour la députée Nicole Sanquer, l'urgence c'est le vote du budget. Elle craint la réaction de l'Assemblée nationale face à un gouvernement qui ne reflète toujours pas les résultats des dernières législatives.
Je crains encore que ce gouvernement soit instable, mais je veux rester optimiste, positive. On retrouve quand même dans ce gouvernement des personnes qui étaient là en 2022. L'esprit finalement des dernières élections, si on suit les comptes, c'est pas le meilleur choix. Et j'ai bien peur qu'on retourne dans les vieilles guerres, quoi.
Voilà, car si François Bayrou et son gouvernement, dont la moitié des ministres sont issus du précédent, passent les premiers obstacles, son horizon ne dépasse guère le mois de septembre prochain. Dès juillet, la Constitution permet de nouvelles élections législatives. Elles pourraient être organisées à la rentrée suivante.
Un gouvernement a été nommé à Paris, mais un autre est tombé à Nouméa.
Oui, le gouvernement indépendantiste de Louis Mapou a chuté cette nuit en Nouvelle-Calédonie après la démission du mouvement Calédonie Ensemble de ce gouvernement collégial. Le parti de centre-droit pointe notamment un manque de solidarité entre les institutions et son désaccord envers le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction porté par le gouvernement collégial et surtout ses conditions de financement. Calédonie Ensemble dénonce aussi une indépendance gouvernementale autoproclamée contraire à l'accord de Nouméa et à la loi organique. Ce 17e gouvernement de Nouvelle-Calédonie est-elle le premier dirigé par un indépendantiste ?
Il est 7h05, on poursuit par ces mots prononcés au CESEC hier, Forever Young.
À l'occasion de l'étude d'un texte important par le Conseil économique et social, le schéma directeur de la jeunesse. C'est une première, jamais le pays n'avait voté une feuille de route pour les moins de 25 ans, qui représente pourtant 35% de la population. Il y avait eu plusieurs chantiers législatifs lancés sous les précédentes mandatures et ce schéma compte bien, lui, aboutir et être développé jusqu'à 2035, d'où son nom, Forever Young 2035. Et l'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, Charles Irénée.
Eh bien, on a beau vouloir rester jeune, le schéma reprend les bonnes vieilles recettes. Des constats pas franchement joyeux sur la situation de la jeunesse, dont 30 à 40% seraient en difficulté, voire en danger. Des grands objectifs ensuite, avec lesquels il est difficile d'être en désaccord. Et puis, un plan d'action très étoffé, puisqu'il découle de plus de 700 consultations menées ces derniers mois. Difficile de tout citer, bien sûr, mais on parle pêle-mêle de suivi systématique des mineurs en surpoids, de centres de cure anti-addiction avec hébergement, de foyers de jeunes travailleurs, de multiplication des camps familiaux et des phares Tamaho, de transports gratuits, de passes et de mentorat aussi. Pour surveiller la mise en place de ce vaste programme étalé sur 10 ans, un comité de pilotage, mais aussi un observatoire et un conseil polynésien de la jeunesse qui restent tous à créer, Valdemar.
Et ce schéma de près de 80 pages semble avoir globalement contenté les membres du CESEC, Charlie.
Oui, il faut dire qu'une partie des conseillers ont participé à la construction de ce document, à commencer par la co-rapporteure de la vie, Patricia Terrii Terrahomea, qui, en tant que présidente de l'UPJ, en a signé l'introduction aux côtés de Naema Temari et Moetei Brotherson. Difficile dans ces conditions d'être en désaccord, et le rapport vient surtout insister sur l'urgence de certaines situations et de certains projets. Une remarque importante tout de même, les actions ne sont ni datées, ni hiérarchisées, ni même chiffrées. Pour les financer, le gouvernement assure qu'il va débloquer une enveloppe de 100 millions de francs sans qu'on sache exactement ce qu'elle recouvre et qui est, quoi qu'il arrive, insuffisante pour le CESEC, Valdemar.
Voilà, le CESEC qui a aussi demandé au pays de mener une grande réflexion sur le statut des bénévoles, très important dans la gestion de la jeunesse. L'UPJ et, semble-t-il, le ministère estiment que ces bénévoles doivent être mieux accompagnés avec des formations, une couverture sociale et des mesures d'attractivité. D'autres estiment au contraire que le statut doit rester libre pour ne pas entraver la passion. Un autre débat à mener, donc.
Et puis on parlait aussi de Matari Inia hier avec un CESEC qui vient un peu gâcher la fête.
Oui, rappelez-vous cette proposition formulée par le Conseil des ministres en avril, faire du 20 novembre un jour férié pour célébrer le lever des Pléiades et la saison d'abondance. Un projet qui était revenu sur la table après de longs mois de silence il y a quelques semaines dans un comité sur la modification du Code du travail. Le projet de loi du pays est désormais prêt et passé sur la table du CESEC hier, mais entre-temps la date a changé. Nana, le 20 novembre, bonjour le dernier vendredi de novembre, petit changement et gros débat en cours. Le CESEC trouve ce calendrier illogique, il cite les avis des associations culturelles comme Haoruru et son président Yves Doudout, on l'écoute.
C'est comme si on demandait à repousser le premier de l'an dans le calendrier Maori. C'est autour du 20 novembre qu'il y avait ce changement de période. Matari Inia, c'est un marqueur de temps. Et on ne peut pas changer un marqueur de temps. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le ciel, c'est la nature. C'est assez dramatique parce qu'on n'a pas compris que le temps et l'espace est fondamental. C'est peut-être un de nos problèmes.
Voilà, du débat sur la date, donc du débat aussi sur l'organisation de ce changement. On avait parlé, l'inscription de Matari dans la liste des jours fériés du Code civil ne permet pas de l'imposer dans tous les secteurs, puisque les conventions collectives prévoient parfois leur propre liste de jours. Plusieurs d'entre elles, dans le commerce, le BTP, le nettoyage ou le transport aérien notamment, doivent être modifiées dans les prochains mois pour intégrer Matari ou pour exclure le jour qui est au passage supprimé du Code civil, le 29 juin, et la fête de l'autonomie. Et pour ça, il faut du temps.
En sport, la Fédération internationale de VAA échappe encore à Tahiti.
Oui, la Fédération tahitienne est privée de la présidence de la Fédération internationale de VAA depuis 2015 et elle a échoué à reprendre le siège à la néo-zélandaise Lara Collins qui a été confortablement réélue le 16 décembre dernier, réélue pour 4 ans. Alors Aldo Maweo et Tavaro Poroi étaient les candidats du Fenua et seules les fédérations francophones, Tahiti, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et France ont soutenu la candidature tahitienne en plus d'une autre fédération internationale. Rodolphe Apuari, le président de la fédération tahitienne précise que le scrutin pour désigner le vice-président n'a pas non plus permis à Tahiti de l'emporter. Au Fenua, on reconnaît volontiers un manque de lobbying auprès des pays anglo-saxons.
Et on termine par un événement.
La venue de Redouane Bougueraba, cet humoriste marseillais qui présentera son nouveau spectacle de stand-up les 28 et 29 mars prochains au Grand Théâtre. Deux soirées proposées par SA Productions et pour lesquelles les billets sont d'ores et déjà en vente sur ticketpacifique.pf dans les 4 magasins Carrefour et à l'accueil de Radio 1 et Thierry FM ici à Fareouté. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve à 7h30 pour la revue de presse locale.
Merci Valdemar pour ce journal. Maintenant, c'est votre météo sur Radio.